José Boselli à la Maison Blanche. La série de vols extraordinaires qui éprouva George Washington il y a quelques mois n'est pas encore oubliée là-bas. On sait que John Stubbins en fut l'auteur. Nul autre que lui n'eût d'ailleurs pu monter une semblable ingéniosité. Mais jusqu'à présent, la manière dont il s'est pris pour mener à bien son invraisemblable entreprise est restée secrète. Non pas que le célèbre détective cambrioleur s'en soit caché, mais bien parce que le gouvernement fédéral a jugé d'une bonne politique de faire le silence autour de cette affaire. C'est ainsi que M. Archibald Murchison, Tim Bett, directeur propriétaire de Washington Herald, qui avait reçu de John Stubbins une lettre contenant le détail des opérations du détective cambrioleur, ne l'a pas publiée sur les instances du président Shaft, son ami. On comprendra pourquoi, sans peine. Le premier de la série de vols qui devait émouvoir au plus haut point toute l'opinion publique américaine eut lieu au Foreign Department, ministère des Affaires étrangères, à Washington. Ainsi qu'on le sait, Washington, capitale fédérale des États-Unis, est le siège de la présidence et des ministères. La société, composée de diplomates et de hauts fonctionnaires de l'État, en majeure partie, est beaucoup plus fermée qu'à New York. S'il est vrai que le président des États-Unis se laisse facilement approcher lors de ses réceptions à la Maison-Blanche, les invitations sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Il en est de même au Foreign Department, où l'on n'entre que dûment accrédité. Quoi qu'il en soit, ce vendredi-là, M. Samuel Parker, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, se préparait de recevoir, ainsi que tous les mercredis, jour d'audience, les diplomates venus pour l'entretenir, lorsqu'en arrivant dans le grand salon où il avait coutume de recevoir, il crut être le jouet d'une songe. La mignonne pendule, faite d'un bloc de saphir constellé de diamants, ne se trouvait plus sur la monumentale cheminée de marbre blanc. Son socle de bronze doré était vide. Seuls y restaient les quatre vis ayant servi à fixer ce chef-d'œuvre inestimable. Samuel Parker, stupéfait, courut à la cheminée, croyant, malgré le témoignage de ses yeux, être le jouet d'une illusion. De ses gros doigts, oui, c'était un ancien charron. Le ministre put s'assurer qu'il avait bien vu, la pendule n'était plus là. Samuel Parker, nerveux, courut à son bureau immense, meublé d'acajou, et cuivre placé au centre du salon, et sonna. Un huissier apparut presque aussitôt. « Dois-je faire entrer ?» demanda-t-il avec ce sans-gêne familier aux Américains. « Mais qui s'est permis de toucher à la pendule ?» demanda Parker, en désignant du doigt le socle vide. « La pendule ? Oh !» fit l'officier pâlissant. « Mais elle était là il y a 10 minutes, même pas. Même que j'ai regardé l'heure, il était 10h20. » Samuel Parker tira sa montre. 10h-4, dit-il. Il y a donc 16 minutes de cela. Quelqu'un est-il venu ici depuis? Répondez vite. Je n'en sais rien, je ne le crois pas, monsieur. Quand je suis tout à l'heure sorti du salon, l'antichambre était vide. Or, le salon ne communique qu'avec l'antichambre et avec vos appartements. Mais c'est vrai, mais il n'en est pas moins vrai que la pendule a été volée. Il faut qu'elle se retrouve. Allez, courez vite au corps de garde, Johnson, et que personne ne sorte du ministère avant que la pendule ne soit revendue et revenue à sa place. Mais, voulut dire l'huissier. Quoi, allez, my God, s'écria le ministère cramoisi. C'est qu'il y a plusieurs ambassadeurs qui... Mais je sais, allez, dites au lieutenant Hobson de faire discrètement surveiller le palais et ne laisser sortir personne avant ma permission, excepté les diplomates étrangers, naturellement. L'homme disparut. Samuel Parker, derrière lui, sortit du salon et courut dans l'antichambre où stationnaient les huissiers. Cobb, dit-il, téléphonez à Monsieur Slope, le chef de la police, de venir ici séance tenante avec quatre détectives. Match, Bridle, Claim, venez avec moi fouiller le salon. C'est que, monsieur le ministre, il y a l'ambassadeur de Suède, le chargé d'affaires de Grèce, l'attaché naval d'Allemagne et le ministre de Costa Rica qui attendent. Eh bien, dites à ces messieurs que je suis malade. Non, j'y vais. Faites entrer l'ambassadeur de Suède dans le salon bleu. Et fouillez bien le grand salon pendant ce temps. La pendule ne peut pas être loin. Vous préviendrez dès que M. Slop sera là, Cobb. Vous annoncerez le ministre de Monténégro. Et très agité, Samuel Parker gagna le salon bleu. C'est que la pendule n'était pas disparue, n'était pas un objet banal. Le tsar en avait fait cadeau à la nation américaine quelques années auparavant, à l'occasion de l'exposition de Chicago, faite d'un bloc de saphir unique au monde, gros comme le poing, et dans lequel était enchâssé le mouvement, on l'estimait plusieurs millions de dollars. Le président Shaft l'avait fait placer dans le grand salon du ministère des Affaires étrangères, dont elle constituait le plus bel ornement. Certes, nul n'eût cru qu'on pût la voler là. Pourtant, elle avait bel et bien disparu. Ce matin-là, Samuel Parker eut bien de la peine à cacher ses soucis au diplomate venu l'entretenir. Il répondit par quelques phrases vagues à l'ambassadeur de Suède, qui lui présentait les observations de ce gouvernement au sujet des nouveaux droits de douane perçus sur les huiles de poisson. Ce diplomate se retira assez troublé en se demandant quel pouvait être le grave événement politique qui préoccupait ainsi le ministre américain. Samuel Parker, prétextant des affaires urgentes, expédia aussi brièvement qu'il put le ministre de Costa Rica, venu pour implorer l'appui du gouvernement américain contre l'Allemagne qui menaçait de saisir les douanes costariciennes en gage d'une dette impayée. Repassez, Excellence, nous verrons cela dans quelques jours. L'affaire mérite réflexion, répondit Parker. Il fit la même réponse à l'attaché naval allemand, Hort von Pleist, qui lui modifiait la décision du gouvernement de Berlin de bloquer les côtes du Costa Rica. L'affaire en elle-même était grave, très grave, puisqu'elle mettait en jeu la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et en vertu de laquelle les États-Unis prétendaient empêcher les Européens d'intervenir par la force en Amérique. Mais qu'importait pour l'instant le différend divisant l'Allemagne et le Costa Rica à Samuel Parker? Toutes ses pensées allaient à la pendule disparue si étrangement. Herr von Pleist partit, le ministre dut recevoir le chargé d'affaires de Grèce, qui lui parla des migrants hellènes molestés à New York. Samuel Parker promit d'examiner le fait et poussa son interlocuteur à la porte. Presque aussitôt, un huissier entra et annonça « Monsieur le ministre du Monténégro, faites entrer !» Le pseudo-ministre du Monténégro n'était rien moins que Monsieur Slope, chef de la police fédérale à Washington. Gros, le visage glabre, l'air placide, dissimulant le regard vif de ses yeux gris derrière une paire de pince-nez de cristal, Monsieur Slob passait pour habile et perspicace. « Me voici à vos ordres, monsieur le ministre, » dit-il, après s'être assuré que la porte avait été fermée. « Oh, vous avez tardé, je vous attendais plus tôt. Enfin, sachez qu'on a dérobé. Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur le ministre, fit Slop, je suis au courant. Entre 9h40 et 9h50, 6, l'horloge d'émeraude placée dans le grand salon a disparu. Et... Mais comment vous savez ?» s'écria Parker, ahuri. « Oh, mais c'est très simple, monsieur le ministre. Aussitôt arrivé, j'ai interrogé l'huissier Johnson, alors que tous ses camarades. Et dans ces sortes d'affaires, il ne faut pas laisser à personne, témoin ou inculpé, le temps de réfléchir. J'ai visité le grand salon et ses luces, et toutes ses issues. Eh bien, je peux le dire, l'affaire est moins si mystérieuse qu'elle n'en a l'air. Pour moi, le coupable ne peut être qu'un des huissiers, lequel s'est emparé de l'horloge et l'a dissimulée dans quelques cachettes préparées à l'avance. Il reste naturellement à trouver cette cachette, et ce sera là la difficulté. Mais je compte en venir à bout, parce que... Premièrement, le coupable n'a pas eu le temps d'aller loin. Deuxièmement, parce que par conséquent, la cachette doit se trouver non loin du grand salon, ou même dedans. Troisièmement, parce que, vu le court délai dont disposait le voleur, la cachette doit être facilement accessible. Je n'attends plus que votre autorisation pour faire commencer les recherches, monsieur le ministre. Samuel Parker hocha la tête, à demi convaincu. Peut-être avez-vous raison, dit-il. En tout cas, cette affaire est bien ennuyeuse. Oh, bon, ce soir, l'horloge sera à sa place, affirma le policier, sûr de lui. Monsieur Slop se trompait. Bien qu'il eût fait tout fouiller, tout le personnel du ministère susceptible de s'être introduit dans le grand salon à l'heure où le vol avait été commis, bien qu'il eût fait enlever devant ses yeux, une à une, les lames du parquet garnissant la vaste pièce, bien qu'il eût sondé les meubles, visité la cheminée, vérifié les murailles, les plafonds, l'embrasure des fenêtres, la précieuse horloge ne se retrouva pas. Restait l'hypothèse d'un jet par la fenêtre, hypothèse qui fut vérifiée impossible. Les deux larges baies du grand salon, situées au premier étage, donnaient sur une cour qu'abritait une véranda vitrée sous laquelle travaillaient les commis de service des archives. Il fallut briser un carreau pour faire passer l'horloge. Or, les vitres, vérifiées soigneusement, furent reconnues intactes. Monsieur Slob dut avouer qu'il avait affaire à forte partie. Mais il n'était pas au goût de ses étonnements, ni de ses mécomptes. Bien que Monsieur Samuel Parker eût donné ordre au personnel du ministère de tenir rigoureusement secrète la nouvelle de la disparition de la précieuse horloge, cet événement malencontreux fut vite connu des journaux. À midi, dans tout Washington, des crieurs se répandirent annonçant ce vol sensationnel. À la vérité, personne n'y crut d'abord. L'ambassadeur de Suède et le chargé d'affaires de Grèce, frappés tous deux de l'attitude préoccupée et embarrassée du secrétaire d'État aux affaires étrangères, on avait conclu que de graves difficultés menaçaient les États-Unis et avait aussitôt câblé à leurs agents de change à New York de jouer pour eux à la baisse. Les agents de change, ravis du bon tuyau, en avaient profité pour leur compte, d'où une baisse terrible accompagnée de rumeurs inquiétantes à Wall Street. On parlait d'une guerre avec le Japon, avec le Mexique, d'un grave litige germano-américain, de scandales terribles. C'est pourquoi, lorsque les éditions spéciales des journaux parurent, annonçant le vol de l'horloge d'émeraude, la nouvelle fut accueillie avec un certain scepticisme. Sans aucun doute, M. Samuel Parker cherchait à amuser l'opinion publique pour la détourner de faits plus graves. Le secrétaire d'État aux Finances a pris ses bruits. Il pensa y couper court en faisant paraître une note officielle au sujet de la pendulette et promettant 20 000 $ de récompense à celui qui la ferait retrouver. Cette déclaration ne calma qu'à demi le public et en bourse, les cours continuèrent à baisser. Cependant, malgré les actives recherches de M. Slop, le chef de la police de Washington, la pendulette et son voleur continuaient à rester inconnus. Au bout de 3 jours, comme la situation diplomatique persistait à rester bonne, les journaux songèrent alors à se venger de leur déconvenu en attaquant violemment Samuel Parker, qui fut accusé de négligence et d'incurie. On le tourna en ridicule. Un journal illustré fit même paraître un dessin représentant M. Parker en train de s'arracher les cheveux en donnant les signes du plus violent désespoir. Et sous le dessin, on disait « L'heure est propice pour signer un traité avec le Mexique. » Mais hélas, je ne peux pas savoir l'heure qu'il est, on m'a volé mon horloge. À tout cela, que répondre? Le ministre se tint quoi? Seulement, il fit comparaître M. Slop devant lui et ne lui cacha pas que si, dans la huitaine, la précieuse pendulette, ou tout au moins son voleur, n'était pas retrouvée, lui, Slop, serait révoqué, purement et simplement. Le chef de la police de Washington, qui avait perdu sa belle assurance, ne put que promettre de faire tout son possible. Pauvre policier, il n'était pas au bout de ses peines, oh non! 2 jours plus tard, en sortant du ministère des Affaires étrangères, il regagna la maison de ville où se trouvaient ses bureaux. Sous le porche, il aperçut l'attorney général. Celui-ci, reconnaissant le chef de la police, s'élança vers lui. Il était pâle et agité. « Oh, vous voilà, monsieur Slop. Je vous cherche partout. Venez vite, » disait-il. « Mais qu'y a-t-il ? » répondit le policier, appréhendant une nouvelle catastrophe. Sans répondre, l'attorney général entraîna Slop dans son bureau, ferma la porte et dit « Bien, tout à l'heure, au cours de l'inauguration de la section historique du Musée national, on a volé la Bible du Mayflower. La Bible du Mayflower? Il faut être américain pour comprendre combien ce vol était considérable. Le Mayflower est ce navire qui, en 1620, amena en Amérique quelques centaines de puritains fuyant l'intolérance de Cromwell, et ces héroïques émigrants sont les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre et des États-Unis actuels. Ils représentent aux yeux des Américains ce qu'il y a de plus vénérable sur Terre. Or, grâce à un concours de circonstances favorables, une Bible ayant appartenu à un des passagers du Mayflower avait été retrouvé, exposée sous une vitrine au Muséum national, elle voyait depuis des années défiler devant elle des théories interminables d'admirateurs attendris. Et voici que cette relique inestimable venait d'être volée. En entendant l'attorney général lui annoncer ce malheur, M. Slop resta frappé de stupeur. D'abord, il regarda son interlocuteur comme pour mieux se pénétrer de ses paroles, puis enfin répondit « Mais comment cela a-t-il pu arriver? Oh, c'est bien simple, fit la tournée générale en haussant les épaules. Le président Shaft, accompagné du gouverneur de New York, du maire et d'une dizaine de sénateurs et de diplomates, ayant à ses côtés Sir Davis Gambling et l'amiral Darbet, venait d'entrer dans le musée national pour en inaugurer la section historique, lorsque, s'étant approché de la vitrine contenant la Bible du Mayflower, il s'aperçut que le Saint-Livre ne s'y trouvait pas. Il se tourna alors vers M. James Merlon, conservateur du musée national, et lui expliqua son étonnement de ne pas voir exposer la précieuse Bible. Comme vous le savez, le président Shaft est assez gros. Ça explique pourquoi il masquait la vitrine au regard de M. Merlon, qui ne s'était encore aperçu de rien. En entendant le président l'interpeller, le conservateur s'approcha et, à son tour, constata le larcin. Très ému, il affirma au président que la Bible se trouvait encore à sa place quelques instants auparavant. Certainement, quelques personnages de la suite de M. Staff avait dû ouvrir la vitrine et prendre la vénérable Bible afin de l'examiner à son aise et de plus près. Le président Schaff ne jugea pas de sa dignité de se déranger lui-même. Il retourna vers ses voisins et pria celui qui avait la Bible de bien vouloir la lui montrer. Personne ne répondit. Un silence régna. Le président Schaff ne jugea pas de sa dignité de répéter sa demande. Pourtant, monsieur le président, murmura James Merlon, je suis sûr, sûr comme de moi-même, que la Bible a été enlevée il y a moins de 10 minutes. Avant de venir à votre rencontre, je l'ai vue à sa place. C'est bien ennuyeux, enfin, faites pour le mieux, répondit le président, embarrassé. Et, dominant la stupéfaction que lui causait un aussi extraordinaire événement, il se remit en marche vers la section historique qu'il inaugura comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, M. Merlon avait fait fermer toutes les issues du musée et prévenu les détectives de service. Ceux-ci, adroitement mêlés à la foule, essayèrent en vain de découvrir l'habile voleur. Ils ne purent surprendre le moindre indice. Pourtant, l'assistance était assez peu nombreuse, une quarantaine de personnes tout au plus, et rien que notre habileté qu'il fallait ménager. Une accusation erronée eût pu avoir de terribles conséquences. Prévenu aussitôt, je courus au ministère du Musée national, accompagné de trois des plus habiles détectives, et dissimulé avec eux dans un petit salon, j'assistai à la sortie du président Shaft et de ses invités, parmi lesquels le voleur se trouve sûrement. Il sera malaisé à découvrir. Voilà les faits, acheva la tournée générale. J'ai laissé les détectives au musée, et après vous avoir téléphoné en vain, j'ai couru ici pour vous y attendre. Oh, je jurerais que le voleur est le même que celui de l'horloge d'émeraude du ministère des Affaires étrangères, fit M. Slope, qui avait écouté avec attention le récit de la tournée. Ce doit être, à mon avis, une bande de malfaiteurs dissimulés sous les allures les plus honorables. Parlons donc des sénateurs, des amiraux, de hauts fonctionnaires ne risqueraient pas leur situation pour. Non, c'est pas ça que je veux dire, fit M. Slope. Mais je dis bien que c'est parmi le personnel qu'il faut chercher. Bien que j'aie obtenu aucun résultat au ministère des Affaires étrangères, je n'en persiste pas à croire, et c'est justement mon échec qui confirme ma croyance, que le vol de l'horloge d'émeraude et celui de la Bible du Mayflower sont l'œuvre d'une association de bandits qui compte parmi ses membres des huissiers dans les ministères, des gardiens de musées, des domestiques de toutes catégories. Il leur est ainsi facile de préparer leur vol, de dissimuler leur larcin dans des cachettes soigneusement apprêtées à l'avance. Déjà, j'ai fait engager deux détectives parmi le personnel des affaires étrangères. Je vais en envoyer deux autres au musée national. Et avec du temps et de la patience, nous finirons par démasquer nos voleurs. C'est à mon avis la seule façon d'arriver à nos fins. Et du temps, de la patience, s'exclama la tournée générale. Vous en parlez bien à votre aise. Vous figurez-vous quelle va être l'émotion lorsqu'on va apprendre le vol de la Bible du Mayflower après l'enlèvement de la pendulette d'émeraude? Il faut agir, et vite, si nous ne voulons pas être balayés. Monsieur Samuel Parker m'a déjà parlé ainsi ce matin, n'importe. Je compte travailler au mieux les intérêts de la justice et de la société. S'il y en a d'autres qui se croient plus habiles, qu'ils prennent ma place. Aussi bien, je prendrai ma retraite sans regret. Ce ferme langage calma un peu la tournée générale qui affirma Monsieur Slope qu'il avait toute sa confiance. Sans tarder, le chef de la police de Washington se mit en campagne. Ainsi que l'avait prévu la tournée générale, suivit une clameur d'indignation et de fureur du nord au sud et de l'est à l'ouest des États-Unis lorsque fut connue la nouvelle du vol de la vénérable Bible du Mayflower. Cette fois, on alla jusqu'à accuser de complicité l'infortuné conservateur du musée national. Certains prétendirent que ce fonctionnaire avait tout immédiatement vendu la précieuse relique à un lord richissime. James Burland répondit à cette accusation en traduisant son auteur devant les tribunaux, ce qui ne fit pas retrouver la Bible perdue. Monsieur Slope, entre-temps, continuait ses recherches avec une louable obstination, mais sans aucun résultat. Bien qu'il eût fait épier par ses détectives tous les fonctionnaires appartenant de près ou de loin au ministère des Affaires étrangères et au musée national, le chef de la police de Washington n'avait pas encore, 5 jours après le vol de la Bible du Mayflower, recueilli le plus petit indice. Malgré sa foi en l'excellence de ses raisonnements, il commençait à se désespérer lorsqu'un événement encore plus étrange que les deux premiers vint porter à son comble l'exaspération publique. Le président Shaft avait eu l'heureuse idée de réunir à Washington un congrès panaméricain composé d'hommes d'État et de diplomates des principales républiques des deux Amériques. Ce congrès, dont le but était, on le sait, d'élaborer les statuts d'une future fédération comprenant toutes les nations américaines, n'aboutit pas à grand-chose, mais il faut l'avouer, il fut du moins l'occasion de nombreux banquets. Ce fut au cours de la soirée donnée par le président Shaft dans les salons de la Maison-Blanche pour célébrer la clôture des travaux du Congrès que se produisit un nouveau vol, dépassant de loin les deux précédents, autant par la valeur de l'objet volé que par le mystère qui entoura longtemps sa disparition. Cela eut lieu dans un petit salon dans lequel avaient été exposés les principaux produits des différents pays des deux Amériques. Du Cap Horn au Labrador, les plus riches citoyens avaient tenu à envoyer ce qu'ils possédaient de plus précieux, à seule fin de montrer au monde étonné que l'Amérique renferme les objets les plus beaux de l'univers. Il y avait là, posé sur des rayons de cristal, de quoi faire la fortune de plusieurs familles. Pépites d'or vierge du Klondike, topazes et diamants du Brésil, échantillons de bois précieux soigneusement sélectionnés, barres d'argent des mines mexicaines, nacres géantes des mers antillaises. Mais parmi toutes ces merveilles, un tube de cristal qui semblait concentrer vers lui la clarté des lampes électriques attirait tous les regards. Ce mince tube de cristal enfermait en effet, placées l'une devant l'autre, 153 perles admirables d'un orient laiteux, doux et irisé, grosses chacune comme un énorme grain de café, et aussi belles et aussi merveilleuses les unes que les autres. Le tube qui les contenait, long de 90 cm environ, semblait un ray de lumière tombé du ciel. Ces perles, perchées au Venezuela et non encore percées, appartenaient au général Castro Bassa, vice-président de Venezuela. Il les avait fait exposer à seule fin de montrer qu'il possédait, lui, ancien muletier, les plus belles perles in the world. Guidé par le général Castro Bassa, qui voulait en personne m'y faire admirer ces admirables perles, le président Schaff s'approcha du tube resplendissant. Castro Bassa saisit l'étui de cristal et respectueusement le tendit à Schaft en disant « Elles sont merveilleuses, n'est-ce pas, monsieur le président? Figurez-vous qu'elles proviennent d'un général insurgé que j'ai fait fusiller pour prix de sa lâche rébellion. Je trouvais plus de 1000 perles dans ses bagages, volées par ce misérable on ne sait où. Et de ces 1000 perles, je choisis celles que voici les plus belles, et me fit un plaisir de les envoyer ici, où sont réunis les plus rares produits de notre noble Amérique. Elles valent plus de 2 millions de dollars. Oh, je n'en doute pas, général, acquiesça Schaft, qui était là pour faire plaisir à tout le monde. Et il saisit le tube dans ses larges mains. Longuement, il admira l'orient des perles et leur grosseur, puis replaça le prestigieux étui dans son écrin de soie. Autour de lui, diplomates et hommes d'État, et aussi 4 détectives portant des titres plus ou moins ronflants, et qui par prudence avaient été mêlés aux invités, se pressaient pour mieux voir le tube et son précieux contenu. Des appréciations enthousiastes s'entendirent. « Beautiful, maravilloso, wonderful, extraordinario !» Ainsi les invités du président Schaft manifestèrent-ils leur admiration. Et c'est à ce moment-là que le vol eut lieu. Comment, par qui, mystère. En plus de Schaft et des 4 détectives, il y avait dans la petite pièce, 4 mètres sur 5, 15 diplomates exactement. Ils se connaissaient tous ou à peu près. Or, environ 2 minutes après que le président Schaft eut replacé le tube dans son écrin, M. Howe Burlingham, délégué du Canada, poussa un cri qui fit se retourner tout le monde. « Mais les topazes du Brésil sont fausses » s'écria-t-il. « Voyez donc, c'est du verre !» Rumeur et stupéfaction. Toute l'assistance, Schaft en tête, rejoignit M. Burlingham, qui était debout devant l'étagère de cristal où était exposée une douzaine de topazes brutes. « Voyez, dit-il en élevant une des gemmes, ou prétendue-t-elle, c'est du verre, bien travaillé, mais c'est du verre. »« Oh, du verre, permettez, s'écria M. Dacunha, le délégué du Brésil. Je m'étonne fort de cela, car ces pierres, permettez-moi de vous le dire, proviennent des mines de Goyaz et non point d'une fabrique. » « Mais je ne doute pas de votre bonne foi, seigneur, fit Burlingham courtoisement. Cependant, voyez-vous-même, ces topazes sont fausses. » M. Dacunha, un peu pâle et sentant tous les regards braqués sur lui, saisit la topaze que lui tendait le Canadien et l'examina avec attention. On le vit bientôt relever la tête et laisser pendre sa main d'un air découragé. C'est pourtant vrai, avoua-t-il d'une voix faible. Cette topaze est fausse, et les autres aussi, ajouta Burlingame implacable. Mais c'est incroyable, fit Monsieur Dacuna. On aura sûrement substitué ces pierres aux véritables, et il faut. Un cri l'interrompit. Ce cri était poussé par M. John Morset, délégué de la Guyane anglaise. En réalité, le détective John Clifford. Les perles, mais où sont les perles? Clamait John Morset. Les perles, mes perles, répéta le général Contrebassa, qui de couleur café au lait était devenu citron. Le président Shaft, déjà troublé par l'incident des topazes brésiliennes, se hâta vers John Morset, mais déjà les autres invités, le précédent, étaient arrivés devant l'écrin ayant abrité le tube contenant les 153 merveilleuses perles du général Castro-Brazza. Et ce dernier, comme fou, criait: mes perles, il me faut mes perles! L'écrin était vide, le tube avait disparu. Cependant, un des détectives avait aussitôt été fermé l'unique porte du salon. D'ailleurs, personne ne songeait à sortir, bien au contraire. Les honorables diplomates, atterrés, se regardaient sans parler. Le président Shaft, furieux et humilié à la fois qu'un pareil fait eût pu se produire à la Maison-Blanche, hochait la tête et jetait autour de lui des regards soupçonneux. Dans le silence, le général Castrovaza continuait à glapir. Mes perles, Madonna, où sont mes perles? Mille dios! Il en était tellement ému qu'il en oubliait ses belles manières récemment apprises pour redevenir le grossier muletier qu'il était quelques années auparavant. Gentlemen, fit le président Shaft, qui avait à peu près reconquis son calme. Ceci n'est, je suis sûr, qu'une agréable plaisanterie. Et good humbug, mais hélas, assez duré, n'est-ce pas? Car je vois que son Excellence, le général Castro-Brazza, commence à s'émouvoir. Allez, que celui d'entre nous qui a caché les perles les remette. Le général Castro-Brazza, pris d'un immense espoir en entendant parler le président Shaft, s'était tu. Ce fut le silence, un silence angoissant, lourd et tragique. Personne ne bougeait ni ne parlait. 5 minutes s'écoulèrent. Shaft était devenu pâle. Castrobassa jetait autour de lui des coups d'œil assassins. Mais le tube de verre n'apparaissait toujours pas. Enfin, oui ou non, va-t-on me rendre mes perles? Hurla le général Castrobassa à bout de patience. Gentlemen, s'écria le président Shaft, je crois que, oui, c'est bien regrettable, mais enfin, il faut, oui, il faut que ces perles se retrouvent, car je crois bien que personne n'est sorti de cette pièce depuis qu'elles ont disparu. Il hésitait, le brave Shaft, malgré son habitude de la parole. Certes, au cours de sa longue vie, il ne se souvenait pas s'être jamais vu en pareille posture. L'honorable Harvey Burlingame le tira d'embarras. Gentlemen, fit le Canadien, je suis de l'avis de Monsieur le Président Shaft. Depuis que les perles ont été enlevées, nul d'entre nous n'est sorti d'ici. C'est donc qu'un de nous les a. Je propose donc il s'arrêta, n'osant poursuivre. Que quoi? S'écria M. Pablo Zalecas, ambassadeur de la République argentine à Washington. Harvey Burlingame haussa les épaules. Ben, c'est bien, dit-il, que ma proposition est grotesque, mais au Canada, nous avons encore notre franc-parler. Je pensais qu'en nous déshabillant tous, voleurs, car celui qui a dérobé le tube de perles est un voleur. Oui, il serait sûrement découvert. Monsieur Pablo Zadeka sourit. Votre proposition en vaut une autre, gentleman, répondit-il. Seulement, elle est inutile. Attendu que le tube de perles est long d'un yard et qu'il est impossible de le dissimuler dans une poche ou sous un vêtement. Des murmures d'approbation se firent entendre. Monsieur John Mauset, alias le détective Clifford, parla à son tour. Pour moi, gentlemen, dit-il, je crois que nous devons imputer la disparition du tube de perles au même personnage, ou à ses complices, qui a déjà volé, il y a quelques jours, l'horloge d'émeraude du département des affaires étrangères et la Bible du Newfoundland exposée au Musée national. Mais j'étais là, interrompit le président Shaft amèrement. Et ce vol fut effectué dans des conditions assez semblables à celles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. N'est-ce pas, monsieur von Kleist? Oh, parfaitement, monsieur le président, affirma l'attaché naval allemand. Je crois donc, poursuivit le président, qu'il vaut mieux ne plus penser pour l'instant à ces perles. La police va être prévenue et s'efforcera de trouver le coupable. Et sortons, gentlemen. Ce disant, le président Schaff marcha délibérément vers la porte, l'ouvrit et franchit le seuil. Sans avoir l'air de rien, deux des détectives déguisés en diplomates en profitèrent pour s'éclipser discrètement et prévenir M. Slope, cependant que le général Costobazar grommelait. Oh, monsieur, ne me rends pas mes 153 perles, il faudra me les payer. Elles valent 2 millions de dollars. La soirée s'acheva tristement dans la gêne et la suspicion générale. Comment décrire la stupeur, l'indignation, la honte qui accueillirent le lendemain la nouvelle de ce que les journaux appelèrent le cambriolage de la Maison-Blanche? De l'avis unanime, ce nouveau méfait fut attribué au mystérieux auteur des vols du ministère des Affaires étrangères et du Musée national. Mais cette fois, la mesure était comble. Avoir l'audace de venir, sous les yeux même du chef d'État et dans sa maison, enlever un tube plein de perles valant plus de 2 millions de dollars, le général Costabossa n'ayant rien exagéré, cela dépassait toutes les bornes. Mais que faisait la police? Monsieur Slope, le chef de la police de Washington, devant les clameurs de l'opinion publique qui l'accusaient d'incapacité, offrit sa démission. Il la retira cependant sur les instances du président Shaft, qui, dans un interview accordé à un reporter du Washington Herald, affirma hautement que M. Slope avait toute sa confiance et ne pouvait être incriminé en rien au sujet des vols qui venaient de se produire. Cette affirmation calma un peu les esprits. Cependant, le voleur demeurait introuvable. Enfin, surveilla-t-on le personnel de la Maison Blanche et multiplia-t-on les perquisitions chez toutes les personnes soupçonnées? Monsieur Slope et ses détectives ne purent recueillir le moindre indice. Le Potomac Times, ayant été interviewé le directeur de l'agence de police privée, Nat Bickerton, publia son avis au sujet du mystérieux vol. Je ne serais pas étonné, déclarait M. Bickerton, que tout ceci fût l'œuvre de John Stroobins. On se rappelle que le détective cambrioleur a dernièrement subtilisé le chrysanthème d'or du prince japonais, Takahashi, lors de son voyage à Frisco. John Swabin, qui avait loué une chambre au-dessus de l'appartement occupé par le prince, réussit à percer un trou dans le plafond près du lustre et profita d'un moment propice pour laisser pendre au-dessus du guéridon sur lequel était posé le bijou une ligne munie d'un hameçon avec lequel il accrocha adroitement le précieux joyau. Il se pourrait bien qu'il eût opéré pareillement, non pas pour l'horloge d'émeraude, pour la Bible du Mayflower, mais pour le tube contenant les perles du général Costobaza. À mon avis, on ferait bien de vérifier le plafond du salon de la Maison Blanche, où étaient exposées les merveilles de l'Amérique. Peut-être y fera-t-on une trouvaille intéressante, à moins que John Robbins, ce qui est possible, ait déjà fait disparaître la trace de son intervention. Pour ce qui est de l'horloge d'émeraude, je suis de l'avis de M. Sopp, le ou les voleurs, et j'incline à croire que le coup à pour auteur John Robbins ont dû cacher le produit de leur larcin aux environs de l'endroit où ils l'ont accompli. Le tout est de trouver cette cachette. En tout cas, de tout ceci, une chose est certaine, c'est que seul John Robbins est capable de combiner et d'exécuter et de réussir trois vols aussi audacieux. Ces déclarations produisirent une sensation énorme. Nat Bickerton, mandé par le président Shaft, fut chargé d'aider de ses lumières la police officielle et reçut du général Costobaza la promesse de $100 000 s'il faisait recouvrer ses 153 perles. Il se mit aussitôt en campagne. Malheureusement, pour sa réputation, l'Eastern Pioneer, journal concurrent du Potomac Times, publia le lendemain les lignes qu'on va lire. Lorsqu'un fait inconnu ou mystérieux vient à se produire, il est extrêmement facile d'échafauder à son sujet et les plus folles hypothèses. Tout le monde le sait. Exemple, l'histoire des vols commis au ministère des Affaires étrangères, au Musée national et à la Maison Blanche. Dans un but fort louable, nous le reconnaissons hautement, notre excellent confrère, le Potomac Times, a publié un interview fort intéressant de M. Nat Bickerton. Les hypothèses émises par le célèbre détective sont fort séduisantes. Seulement, ce ne sont que des hypothèses. C'est ce que nous fait remarquer un de nos lecteurs dans une lettre fort intéressante et que nous nous faisons un devoir de publier. La voici. Monsieur le directeur, les élucubrations du nommé Nat Bickerton sont tout simplement folles. Je vais en donner la preuve. Bien que ma position m'interdise de vous révéler mon nom, je puis vous dire que j'occupe une fonction officielle. Or, cette fonction m'a permis de constater un fait que M. Nat Bickerton oublie. C'est que les trois vols ont eu lieu alors que la même personne était présente. Cette personne, c'est son Excellence Don Ramirez Campos Carrucia, ministre plénipotentiaire de la République de Costa Rica, et qui, oh, j'ai pris mes informations, est parti en voyage le soir même du vol de la Maison Blanche. Je veux bien qu'il n'y ait là qu'une troublante coïncidence, tout arrive. Pourtant, il me semble qu'il y a là une piste à suivre. Sans douter de la haute honorabilité de Ramirez Campos Crucia. J'estime qu'il a été, par hasard, je crois, témoin de trois vols. Il a certainement dû s'apercevoir de quelque chose. Son témoignage pourrait sans doute être très intéressant pour la justice. Je n'insiste pas. Voilà donc une nouvelle hypothèse et qui, celle-là, repose sur des faits précis et contrôlables. Quant à l'histoire du tube de verre, un tube blondin à yard, pêché à la ligne, c'est un conte de nourrice, propre à endormir les enfants, les jobards et les lecteurs du Potomac Times. Jean de Lacamou. Nous n'ajouterons rien à ces lignes, concluait le rédacteur de l'Eastern Pioneer, elles se suffisent à elles-mêmes. Et elles suffirent aussi à la police. Et une heure après l'apparition de l'Eastern Pioneer, M. Jim Fayetteville, attorney général, se présentait à la légation de Costa Rica. Introduit dans le salon de l'ambassade, le magistrat déclina son nom et au secrétaire accouru demanda à parler à Don Ramirez Campos Curutia en personne. Ah, Don Ramirez regrettera certainement de n'avoir pu vous y recevoir, fit le secrétaire courtois. Son Excellence est en ce moment en voyage à New York, où il étudie l'établissement d'une nouvelle ligne de navigation pour le transport des bananes entre Port Limon et New York, que compte établir le gouvernement de Costa Rica. Ah, bien, et quand son Excellence revient-elle? Demanda la Tornée. Mais demain ou après-demain, je crois, répondit le secrétaire, qui évidemment n'avait pas encore lu l'article de l'Eastern Pioneer. Si vous voulez attendre quelques instants, Seigneur Attorney, je vais demander au consul la date exacte du retour de son Excellence. Mais je vous en prie. Le secrétaire s'inclina et disparut. Il revint 2 minutes plus tard, un sourire aux lèvres, et s'écria « Bien, son Excellence Don Ramirez arrive demain soir à 7h25 à la gare de Southeastern Railway. » Par le rapide de New York-Baltimore. M. Jim Fayetteville, ainsi renseigné, remercia et prit congé. Bien que la culpabilité du ministre de Costa Rica ne fût en rien démontrée, les affirmations du mystérieux lecteur de l'Eastern Pioneer avaient fortement ému l'opinion publique. Dans la matinée, plus de 100 reporters s'en furent sonnés à la porte de l'ambassade de Costa Rica pour tenter d'avoir quelques renseignements. Le secrétaire du diplomate, indigné et furieux en apprenant les soupçons pesant sur Don Ramirez, ne voulut recevoir personne, et puis fit jeter à la porte un des journalistes qui, déguisé en garçon pâtissier, était parvenu à le joindre. C'est pourquoi, dans leurs éditions de l'après-midi, les journaux furent unanimes à déclarer, sans en rien savoir, que les charges les plus accablantes pesaient sur l'ambassadeur de Costa Rica. Le général Costrobaza, qui n'aimait pas le Costa Rica, d'où il avait été expulsé quelques années auparavant, comme vagabond, interviewé par l'Eastern Pioneer, déclara sans embâge qu'à son avis, Don Ramirez Curutia était sûrement le voleur. Qu'il avait d'ailleurs remarqué ses allures étranges à la Maison Blanche, et puis que cela ne l'étonnait nullement de la part d'un Costaricien. Ces déclarations produisirent l'énorme sensation qu'on devine. De son côté, la police, sous les ordres de M. Jim Slop, qui tenait à rétablir sa réputation fort amoindrie depuis quelques jours, ne perdait pas son temps. Une rapide enquête révéla que le lecteur de l'Eastern Pioneer disait vrai quant à la présence du diplomate costaricien sur les lieux où s'étaient accomplis les 3 vols, ce qui d'ailleurs ne prouvait rien. Il fallait attendre. La curiosité publique prit patience en apprenant que Don Arturo Benigual Pinoza, le premier secrétaire de la légation de Costa Rica, s'était rendu à l'hôtel où gîtait le général de Costrobaza et lui avait sans autre explication appliqué 2 soufflets vigoureux et retentissants. À quoi le général avait répondu en brisant une carafe sur la tête de son agresseur, lequel, par la même occasion, avait eu le crâne un peu fêlé. Dès 4 heures de l'après-midi, le lendemain, la gare du Southeastern Railway fut envahie par une foule immense, malgré l'important service d'ordre organisé par M. Jim Slop. Tout le monde voulait assister à l'arrivée de l'ambassadeur de Costa Rica. Déjà, les journaux annonçaient que le ministre des Affaires étrangères avait déjà formulé une plainte officielle contre les diplomates devant le gouvernement costaricien. Affirmation tendancieuse, ou du moins très prématurée. À la vérité, l'attorney général avait tout simplement été envoyé à la rencontre de l'ambassadeur pour le prier de bien vouloir dire ce qu'il savait, si tant est qu'il savait quelque chose sur les trois mystérieux vols. À 7h15, le train fut annoncé. Une rumeur sourde monta de la foule. 8 minutes plus tard, le rapide fumant entrant en gare avec 2 minutes d'avance. Presque aussitôt, l'on vit la porte d'un compartiment réservé s'ouvrir et donner passage à Don Ramirez Campos Crucia, pâle, plus que pâle, livide et les yeux étincelants. Le vice-consul de Costa Rica, suivi du personnel de la légation et de l'attorney général, s'avança en hâte vers lui. Dans l'immense gare, la foule s'était tue et l'on n'entendait plus que le bruit monotone de la vapeur fusant à travers la soupape de la locomotive du rapide. Excellence, commença le vice-consul de Costa Rica en s'avançant vers son chef. La police, où est la police? Je veux la police, hurla l'ambassadeur sans entendre. Il paraissait hors de lui et en proie à une inexprimable fureur. Monsieur Jim Fayetteville jugea le moment propice pour intervenir. Voilà, dit-il flegmatique en s'avançant vers le diplomate. Je suis l'attorney général. Oh, vous êtes l'attorney général. Eh bien, je porte plainte contre l'odieuse machination dont je viens d'être victime. Mais, monsieur l'ambassadeur, personne ne vous accuse, répondit Fayetteville. Je suis simplement venu pour vous demander. Me demander quoi, mille dios, señor, c'est indigne. Je n'aurais jamais cru que la population des États-Unis. Mais enfin, monsieur l'ambassadeur, laissez-moi parler. Je veux seulement vous demander rien du tout. C'est à moi de demander des explications et aussi que les coupables soient sévèrement châtiés. Mais on ne les connaît pas, monsieur. Et c'est. Je les connais, moi. Ah, oh, tant mieux. Ainsi, vous avez vu voler l'horloge. Quelle horloge? L'horloge du département des affaires étrangères. L'horloge du département des affaires étrangères, mais je ne connais pas, je ne comprends pas ce que. Oh, mais enfin, vous avez vu alors le vol de la Bible du Mayflower, n'est-ce pas? Mais vous vous moquez de moi, monsieur Latournelle, hurla l'ambassadeur menaçant. Monsieur Jim Fayetteville, prudemment, se recula. Me moquez-vous de vous, moi, vous, monsieur l'ambassadeur, dit-il, je n'y songe pas. Laissez-moi vous parler, je vous prie. Laissez-moi parler, ma grande. Je suis ici, entendez-vous, pour vous demander si vous pouvez éclairer la justice sur le vol de l'horloge d'émeraude du ministère des Affaires étrangères, de la Bible du Mayflower et du Musée national et des 153 perles de la Maison Blanche. Vous venez de me dire que vous connaissiez le coupable, nommez-le. Vous ferez une bonne action, puisque les 100 000 $ de récompense promis iront aux pauvres du Costa Rica. Ce fut au tour de l'ambassadeur de regarder l'attorney général avec une stupeur qui n'était pas feinte. Oh, ça, me dit-il, mais que me racontez-vous là? Oui, je connais les coupables, c'est-à-dire ceux qui m'ont enlevé et séquestré depuis plus de 15 jours, et amené ensuite de force dans le wagon. J'ai voulu tirer la sirène d'alarme, elle était bloquée. Mais ceux qui m'ont ainsi enlevé en plein Washington, vous voulez savoir qui sont-ils? Ben, ce sont John Strobin et ses affiliés. Comment, il y a 15 jours que vous êtes séquestré? 15 jours? Appuya M. Fayetteville, ahuri. Oui, j'étais monté dans une auto de Vloire l'autre jour, pour me rendre au ministère des Affaires étrangères, afin de demander à M. Samuel Parker l'appui du gouvernement fédéral contre l'Allemagne, qui menace de saisir les douanes du Costa Rica. Et au coin de la 21e rue, mon auto ralentit au milieu d'un embarras de voitures, et au même instant, deux hommes, passant chacun à travers une portière, se précipitèrent sur moi. Je n'eus pas le temps d'appeler ni de me débattre. Avant de comprendre même ce qui m'arrivait, je fus ligoté solidement et bâillonné. L'un de mes agresseurs me fit respirer un mouchoir imbibé de chloroforme et je perdis l'essence pendant que l'auto accélérait sa vitesse. Lorsque je me réveillais, je me trouvais dans une petite chambre, dans une maison inconnue, pieds mains liés. Je restais là 14 jours, servi par un nègre colossal qui, deux fois par jour, venait me faire manger. Et hier soir, je m'endormis comme de coutume et me réveillais dans un compartiment réservé du rapide. D'abord, je voulus tirer la sonnette d'alarme. Elle ne fonctionna pas. Alors, je sortis dans le couloir. Et au même instant, le train ralentit. Et par la fenêtre du wagon, je reconnus le hangar de Washington. Je porte plainte contre ce misérable John Strobin et j'espère bien que ce bandit sera promptement appréhendé et châtié. Car. Mais comment savez-vous que John Strobin est un de vos agresseurs? Ne puis s'empêcher de dire Jim Fayetteville. Cependant que les policemen s'avançaient, s'efforçaient de maintenir la foule curieuse. Comment je sais que. Oh! C'est pas bien difficile! S'écria le seigneur Don Ramirez Campos Curcusia. Ce misérable bandit, j'oubliais de vous le dire, est venu lui-même m'informer de son nom pendant que j'étais prisonnier dans la maison inconnue. Mon cher ambassadeur, me déclara-t-il, je m'excuse de ne pouvoir vous offrir une plus confortable hospitalité, mais on fait ce qu'on peut, et il vaut mieux coucher sur la paille que de la manger. Croyez-moi, mais j'oublie de me présenter, je suis John Strobbins. Mais ce misérable voyou parla ainsi et se retira. Il fit bien quand je lui aurais dit ce que je pensais de lui, conclut le diplomate. Monsieur Jim Fayetteville réprima un sourire, aussi bien il était fixé. L'ambassadeur de Costa Rica était sincère, cela ne faisait aucun doute. Alors, de tout ceci, la conclusion se dégageait, claire et lumineuse. John Strobin, après avoir enlevé et séquestré le diplomate, s'était fait passer pour lui et en avait profité pour entrer librement au département des affaires étrangères, au musée national de la Maison Blanche. Mais comment avait-il réussi ces vols étonnants? C'est ce que l'instruction éluciderait. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur, fit l'intendant général. Je viendrai demain vous demander quelques explications complémentaires qui nous aideront, j'espère, à découvrir et à arrêter John Robbins. Pour l'instant, je ne puis que vous exprimer les regrets du gouvernement américain, qui fera l'impossible, croyez-le bien, pour châtier vos agresseurs. Je l'espère, répondit Don Ramirez Carlos Calcucia avec hauteur. Le magistrat fit un signe. L'officier commandant des policemen s'approcha et reçut l'ordre de faire écarter la foule, cependant que l'ambassadeur de Costa Rica s'entretenait à voix basse avec son vice-consul et apprenait les événements extraordinaires survenus pendant sa séquestration. Comme l'ambassadeur était d'un caractère orgueilleux et fier et logeait à l'hôtel, nul à la légation ne s'était étonné de son absence prolongée, d'autant plus que le lendemain de la soirée donnée par le président Shaft en l'honneur du Congrès panaméricain, soirée au cours de laquelle avait été dérobé le tube contenant les perles du général de Costrobassa, une dépêche était arrivée à la légation, signée de Don Ramirez Campos, et qui annonçait le voyage à New York du diplomate pour étudier la création d'une ligne de navigation devant desservir le Costa Rica et indiquer la date de son retour. Ainsi, personne ne s'était douté de rien. Suivi de ses compatriotes, l'ambassadeur de Costa Rica, la bouche amère et les sourcils froncés, sortit de la gare et se rendit à l'hôtel où il logeait. Il apprit là que les bagages avaient été enlevés depuis 8 jours. Les journaux du lendemain apprirent au public l'odyssée du diplomate costaricien et aussi le nom du véritable auteur du vol de l'horloge d'émeraude, de la Bible du Mayflower et des perles du général Costrobassa. Car Don Ramirez Campos Crucia s'était laissé abondamment interviewer par qui avait voulu. Ses explications étaient nettes et éclaircissaient tout, excepté la façon dont John Strabbins avait opéré. Jusqu'à présent, nul ne l'a jamais su. Et même une note parue dans le Polonac Times, le lendemain du retour de Don Ramirez, a affirmé que l'ambassadeur de Costa Rica, bien que de très bonne foi, avait dû se tromper, attendu que John Strobis n'était pour rien dans cette affaire. La meilleure preuve était que l'on venait de retrouver la Bible du Mayflower, l'horloge d'émeraude du département des affaires étrangères et les 153 perles du général de Costrobaza. La Bible, on pouvait aller l'admirer au musée national. L'horloge était maintenant en lieu sûr. Quant aux perles, le général vénézuélien était parti avec en Europe. De fait, la Bible du Mayflower avait bien repris sa place au musée national. Les plus incrédules purent s'en convaincre. Quant à la façon dont les précieux objets disparus ou dérobés avaient été restitués, nul détail. Ben, ils étaient revenus, c'était le principal. D'autres événements survinrent sur ces entrefaites qui détournèrent l'attention du public. La vérité, pourtant, était tout autre. Jusqu'à ce jour, 3 hommes seulement l'ont connu. D'abord M. Murchison Finlet, le directeur du Washington Herald. Ce gentleman reçu, 2 jours après le retour de Don Ramirez Campos Crucia à Washington, la lettre suivante. « Je suis extrêmement étonné, monsieur, des affirmations mensongères que répand sur mon compte le dénommé Don Ramirez Campos Crucia. J'ai en effet enlevé et emprisonné ce diplomate, mais durant sa détention, rien ne lui a manqué, j'ose le dire. 3 domestiques noirs ont toujours été à sa disposition, avec ordre de prévenir ses moindres désirs. À l'exception d'un seul, naturellement, celui de s'en aller. Vous pouvez d'ailleurs vous convaincre de la vérité de mes dires en venant visiter la villa du Chien Vert à Atlanta, que je viens de vendre et dans laquelle j'ai hébergé Don Ramirez. J'ai même poussé l'obligeance jusqu'à faire prendre ses vêtements à son hôtel afin qu'il puisse s'habiller comme il lui plairait. Mais c'est trop parler, n'est-ce pas, de cet ambassadeur marmiteux. J'abrège. Je sais combien mes entreprises ont étonné les États-Unis. Car c'est bien moi qui ai enlevé la pendulette d'émeraude du département des affaires étrangères. Cela m'a été facile. Vêtu de l'uniforme de ce bon Ramirez Campos et dûment introduit sous son nom au ministère, j'ai simplement profité de ce que l'huissier qui m'avait guidé s'absentait quelques secondes pour pénétrer dans le grand salon, enlever la pendulette et arrêter le mouvement et la cacher dans la coffre de mon bicorne. C'est simple. Qui aurait pu soupçonner un ambassadeur, je vous le demande? Pour la Bible du Mayflower, je l'ai prise juste au moment où le président Shaft, placé à côté de moi, qui jouait toujours mon rôle d'ambassadeur de Costa Rica, en vantait l'authenticité à l'amiral Darbet. Cette Bible, d'ailleurs, est fausse. J'entends qu'elle date de 1820, ainsi qu'on peut s'en assurer au filigrane du papier. Elle n'a donc pu servir aux émigrants du Mayflower en 1620. Je vous la renvoie par colis postal. Quant aux 153 perles du général Condrovassa, je les garde. C'est moi qui ai suggéré au brave Harley Burlingame d'examiner les topazes qui valaient pas grand-chose. Je venais les échanger pour des fausses qui ne valaient rien du tout. Alors, profitant de l'indignation de M. Dacuna et de la stupeur générale, stupeur partagée par les quatre détectives déguisés en ambassadeurs, je lui caponne le tube contenant les perles vénézuéliennes et l'introduire délicatement dans le fourreau vide de mon épée, préparé à cet effet. C'est pas plus difficile que ça. Il est donc inutile que ce digne M. Jim Slop et ce non moins digne M. Fayetteville continuent à suspecter le personnel du département des affaires étrangères et de la Maison Blanche. Le seul coupable, c'est moi. John Sobbins, détective cambrioleur. Quelle que fût sa tentation de publier un document aussi sensationnel, M. Murchison Finlet, par correction, communiqua au président Shaft la lettre de John Sobbins. Le brave président fut d'avis d'écouter découffer l'affaire. Aussi bien, police, magistrature y jouaient un rôle assez ridicule. La pseudo-bible du Mayflower fut replacée au musée national. Et le général Costrovassa reçut le prix de ses perles prélevées sur les fonds secrets. La pendule d'émeraude fut déclarée en réparation. Elle y est toujours, et pour cause, José Moselli.